Bonsoir. La vie n'est pas toujours juste et la réalité, c'est que si on avait marché avec le Seigneur depuis le début comme il aurait fallu, la vie aurait été juste. Mais le fait qu'on ait rencontré Satan, et je pense qu'il avait l'intention effectivement de tordre un peu le système, et il a bien réussi. Et effectivement, on s'est retrouvé avec des gens qui se retrouvent récompensés alors qu'ils ne font pas les bonnes choses. D'autres qui sont innocents mais qui sont punis. Et il y a des fois où on se dit, mais la vie est injuste, c'est pas normal, ça ne devrait pas être comme ça. Mais le mot justice dans la Bible peut être interprété aussi sur un autre plan que c'est juste, c'est injuste, etc. Plutôt dans le sens d'établir une relation, une alliance dans laquelle il y a effectivement de la bonté, de la miséricorde, de la proximité, de l'intimité. Je pense que c'était cette justesse d'une relation à laquelle Dieu aspirait à avoir avec chacun d'entre nous et qu'il aspirait à ce que chacun ait les uns avec les autres. J'essayerai de développer un peu plus cela dans quelques instants. Ce qui est important dans une relation, c'est pas simplement de respecter un certain nombre de règles. On peut respecter un certain nombre de règles et ne pas s'entendre. Hein? Ne pas avoir de proximité, ne pas avoir de lien réel. Et pourtant, chacun respecte les choses qu'il doit respecter. Et je pense que la relation, c'est quelque chose qui va plus loin que le simple fait de respecter des règles. Et donc, je voudrais commencer par ceci. Dans Matthieu, au chapitre 22 et au verset 36 à 40, il est dit ceci: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi découle de ces deux commandements. Mais on voit dans ces deux commandements qu'il y a une chose qui est importante, c'est l'amour. C'est l'amour qui va plus loin que la notion de respecter des règles. Et on va voir Jésus tout à l'heure nous expliquer un peu cela. Et effectivement, une bonne relation entre deux personnes s'établit sur une adhésion de cœur, de valeurs communes. Et c'est quelque chose qui est essentiel. C'est vrai qu'en ce qui nous concerne, on a besoin d'une intervention extérieure pour nous aider à franchir ce cap de la transformation. Et c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit qui nous permet effectivement de développer une relation autre que toutes celles qu'on a pu connaître auparavant. Et Jésus, donc, dans le sermon sur la montagne, nous présente une dimension plus profonde de la façon dont on doit respecter un certain nombre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont il le présente nous montre à quel point on peut en être loin parfois. Et c'est aussi ce qui est intéressant parce que ça nous permet aussi de comprendre comment Dieu voit les choses, comment Dieu aspire à ce que nous on soit. Sauf que comme on marche avec le Seigneur, on n'est plus sur une condamnation parce qu'on ne respecte pas des règles, on est sur une transformation. Donc on va essayer d'approfondir un peu tout ça en parlant donc du sermon sur la montagne. On va commencer par les béatitudes. Je voudrais simplement retenir dans la première partie l'état de chaque personne. Je ne vais pas faire une étude profonde de tout cela parce que ça, c'est quelque chose de beaucoup plus. Il y a plus de choses à dire. Je voudrais retenir plutôt heureux. Heureux qui? Ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ceux qui pleurent. Ceux qui sont doux. Ceux qui ont faim et soif de la justice. Ceux qui font preuve de beauté. Ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés pour la justice. Et Jésus va plus loin, il dit: Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit toutes les personnes qu'il cite, enfin toutes les attitudes qu'il cite, quoi qu'il arrive, soyons heureux. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation dans laquelle on est, soyons heureux. Soyons heureux, non pas parce que la situation nous plaît, la plupart du temps, ce n'est pas le cas, mais parce que notre récompense sera grande dans le ciel avec le Seigneur. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est aussi essentiel à avoir dans son cœur quand on rencontre des difficultés. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'être heureux quand on se fait taper dessus. Ce n'est pas évident d'être heureux quand on se fait critiquer. Et c'est vrai. Mais c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit que de nous aider à traverser ces moments-là. De nous aider à garder la foi, à garder confiance dans le fait que le Seigneur est là. À la suite, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. C'est marrant qu'il lie ça au fait d'être heureux. Si le sel perd sa saveur, si on n'est pas heureux, c'est dommage. Et c'est aussi cette aspiration que Dieu fait par rapport à nous, que Jésus fait par rapport à nous, pour nous emmener plus loin, plus haut. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Tout ne va pas se passer automatiquement du jour au lendemain. Il y a une croissance dans l'impact qu'on a autour de nous. Mais il y a une croissance. Et ça, c'est une réalité. Et donc, le regard qui importe dans notre vie, ce n'est pas celui que l'on porte sur le monde ou que l'on porte sur notre place, mais c'est le regard que l'on porte sur notre témoignage en relation avec notre soumission à Dieu. Quel témoignage a-t-on dans les situations que l'on rencontre? Dieu nous implique dans ce monde. Pour quelle raison? Pour le représenter lui. Jésus est venu nous révéler le Père. Et nous révélons Jésus qui révèle le Père. Comment est-ce que nous le révélons? C'est à chacun de nous de s'examiner et de voir le chemin qui est accompli et le chemin qui reste à accomplir. Parce que c'est un processus. C'est pas un chemin c'est pas un pas que l'on fait une fois pour toutes. C'est un pas qu'on continue, qu'on développe, qu'on fait croître. Alors, comment est-ce que Jésus interprète un peu la loi? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le Seigneur remet la loi à sa place, comment elle doit être dans notre cœur. Il parle ici que notre justice dépasse. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre à respecter des règles, il s'agit d'aller plus loin. Et Jésus ne s'arrête pas là, sinon ça serait un peu compliqué, on ne comprendrait pas ce qu'il veut dire. Mais il va un peu plus loin, et voici ce qu'il dit. « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis. » Hein, retenez bien, il va révéler, il va reprendre ça souvent. « Mais moi, je vous dis. » Jésus, le Fils de Dieu, le représentant du Père, « Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande, mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis, en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. » Jésus nous met ici vraiment face à la qualité de notre relation avec notre prochain. Quel type de relation on a? Quelle liberté on se prend, on s'octroie? Cela concerne effectivement notre attitude, mais Jésus l'amène plus loin, jusque dans nos pensées, dans nos paroles, et comment on maîtrise nos réactions. Ce que nous disons a un impact certain sur la qualité de nos relations. Nous devons maîtriser nos paroles et ne pas condamner les autres. Ça, c'est une réalité à laquelle nous devons nous caler, faire attention à ce que l'on dit. Parce que c'est vrai que c'est facile de condamner les autres. Celui-là, il est nul, celui-là n'est pas bien, celui-là, etc. Le monde n'arrête pas de faire ça. Nous, parfois, on fait ça. Ce qui est intéressant, c'est que moi aussi, je fais ça. Mais maintenant, à chaque fois que je fais ça, j'ai une petite pensée qui vient, qui dit... T'es vraiment sûr que c'est bien ce que tu viens de faire? Et je dis, honnêtement, je suis obligé de répondre que non, c'est pas bien. Je suis obligé de le dire. Et je remercie le Seigneur de permettre effectivement d'être interpellé et de faire attention. Alors effectivement, les conflits non réglés sont un obstacle à notre relation avec Dieu. Il y a des conséquences à ne pas régler les conflits avec nos adversaires. Et ces conséquences sont désastreuses. Ensuite, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Là encore, Jésus met vraiment l'accent sur nos pensées. Pas simplement nos actions, mais nos pensées. Là, on va plus loin que de respecter les règles. On va sur le fait d'intérioriser complètement le fonctionnement de Dieu, la vision de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire comme dimension. Ça va beaucoup plus loin. Si effectivement tout le monde respecte ça, il y a des chances qu'on ait de bonnes relations les uns avec les autres. Et c'est ce qui est intéressant. Parce qu'effectivement, lorsqu'on entretient des mauvaises pensées, lorsqu'on entretient des désirs, eh bien, ça conduit effectivement à des choses qui sont moins bonnes. Et Jésus nous aide à nous projeter dans le temps à venir et la conséquence de ces pensées malsaines. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Jésus nous aide à porter un regard sur les raisons bien souvent égocentriques de notre comportement. On accuse les autres de certaines choses pour s'en débarrasser, mais en réalité, le problème, c'est nous. C'est qu'on veut quelque chose à la place. Plus loin, il dit ceci, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre ou blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qu'on y ajoute vient du mal. » Être digne de confiance dans ce que l'on dit. Et ne pas prendre Dieu comme justification. Sous le regard de Dieu, je te dis, ça c'est vrai. Ah bon, d'habitude quand tu parles, c'est pas vrai. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir l'habitude de dire les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire qu'on va raconter la vérité brute et parfois méchante à quelqu'un. Mais ça veut dire qu'on ne va pas non plus cacher des choses par rapport à soi-même ou promettre des choses qu'on ne va pas tenir ou affirmer des choses dont on ne sait pas si elles sont vraies en justifiant que c'est un tel qui nous l'a dit. Ou... Mais peut-être qu'un tel... Bon, je ne développe pas. Faisons attention à la façon dont on parle. Jurer aurait tendance à faire croire que d'habitude on ne parle pas vrai. Je te jure. Eh bien, vaut mieux pas. Soyons tout le temps dignes de confiance. Si vous pouvez faire quelque chose, vous dites oui. Si vous ne pouvez pas, vous dites non. Si vous n'êtes pas sûr, vous dites je ne sais pas. Soyez simple. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent », mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui, donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Dieu est bon envers tous et ne rompt jamais la relation lui-même. Il fait tout pour que nous nous tournions vers lui. De même, il nous appelle à nous ne pas définitivement fermer la porte dans la relation avec l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit la qualité de cette relation. Même si parfois ça paraît injuste, savons-nous si notre attitude ne va pas amener cette personne à la longue à se tourner vers Dieu? Tant que la personne ne coupe pas la relation, on peut l'entretenir. Bien sûr, on adapte. Hein? On ne va pas avoir le même type de relation avec un ennemi qu'avec un ami. Mais on ne va pas le rejeter obligatoirement. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est ce que Dieu est. Et Dieu a des enfants. Et ses enfants, c'est nous. Et les enfants se comportent comme les parents. En tout cas, les parents s'attendent à ce que les enfants se comportent comme les parents. Non ? Ceux qui ont des enfants, vous vous attendez à ce que vos enfants se comportent comme vous. Jusqu'à maintenant, vous pensez que vous êtes quand même le bon exemple. Dans ce cas-là, vous pensez que vos enfants doivent se comporter comme il faut, comme nous. Je crois qu'on doit être des dignes représentants de Dieu et de ne pas décider qui mérite notre gentillesse et qui ne mérite pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, et que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Jésus nous invite à ne pas nous contenter de faire le minimum, comme peuvent faire les gens du monde. Aimez seulement ceux qui nous aiment. Voilà ce qu'il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On voit dans tout ce développement que Jésus nous amène à ne pas regarder la loi, les commandements de Jésus simplement comme des règles à respecter, mais comme un chemin vers une relation réelle et profonde avec l'autre. Alors effectivement, je voudrais préciser une chose, c'est que il nous permet de sortir de la crainte de Dieu et son esprit nous rend capable de marcher d'une façon juste. Quand l'esprit nous conduit, lorsque nous n'arrivons pas à respecter certaines règles, nous n'avons pas peur d'une punition de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons le désir et le plaisir de vouloir faire sa volonté et à ce moment-là, nous lui demandons la force et l'aide nécessaire pour arriver à respecter les choses. Parce que nous avons envie de le faire. Nous les gardons sur notre cœur. Jésus dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. La peur de la punition et de celui qui la met en œuvre existe seulement pour ceux qui n'obéissent pas aux règles ou le font à contre-cœur et cherchent à les contourner en permanence. Ils sont rebelles à l'auteur des règles et refusent leurs bienfaits. Dès la création, nous voyons que la volonté de Dieu était d'avoir une relation juste avec l'homme. Dieu cherchait Adam, Dieu cherchait Ève, et ils s'étaient cachés. Parce que pour qu'il y ait une relation, il faut que les deux entités aillent l'une vers l'autre. Là où il y a eu un problème, c'est que l'une des parties a rejeté l'autre. C'est symbolisé par l'adhésion, l'affirmation de Satan. Vous serez comme des dieux. Ça a été une remise en cause de la relation qui existait. Vous serez comme des dieux. Là, Satan a semé déjà la distance, la jalousie. Mais cependant, Dieu n'a jamais abandonné la restauration de cette relation. Il met en place notre justification afin que nous puissions nous retourner vers lui. Et dans Ésaïe, il est dit ceci, chapitre 59, verset 1 à 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est terrible cette notion-là. Nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. Mais le Seigneur est venu. Parce que, effectivement, du fait que Dieu ne peut pas côtoyer le péché, il ne peut pas entrer en relation avec nous, donc, bien qu'il en ait la puissance, mais il ne peut pas côtoyer le péché. Nous devons rejeter le péché. Mais cela, on ne peut pas le réaliser avec nos propres forces. Nous n'avons aucun pouvoir pour nous justifier devant Dieu. Il faut que lorsque Dieu nous regarde, il puisse voir que sa justice a été respectée. Et alors, notre relation peut être établie. Et ça n'a été fait que par Jésus qui a donné sa vie à notre place. La justice de Dieu a été réalisée. Nous pouvons nous retourner vers Dieu et développer à nouveau, en ce qui nous concerne, c'est pas à nouveau, et développer une saine, juste relation avec Dieu. C'est à travers cet échange permanent qu'on peut développer avec le Seigneur que notre relation va grandir. Nous désirons rencontrer Dieu, nous désirons être à l'écoute de Dieu, nous désirons faire plaisir à Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle à Dieu. On appelle ça prière, mais en réalité c'est un dialogue avec Dieu. Un dialogue avec Dieu dans lequel il nous répond à travers sa parole écrite, à travers des messages, à travers des discussions, et il nous répond. C'est pas simplement ce dialogue un moyen de demander à Dieu tout ce qu'on veut. Hein? On peut demander tout ce qu'on veut, mais ce que je veux dire, c'est pas ce qu'on désire qui est important, c'est la relation, la qualité de la relation qu'on va développer. Cette profondeur de relation, cette amitié. Hein? Jésus a dit à un moment donné, je vous appelle mes amis. C'est quelque chose qui est riche, précieux. c'est important que cette relation soit développée parce que si on est simplement en train d'utiliser le nom de Jésus pour faire des tas de choses et que derrière il n'y a pas de relation qui se développe, eh bien Jésus dira ceci à ceux qui le rencontreront à la fin: je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Parce que ils n'ont pas développé cette relation. Parce qu'ils ont simplement utilisé le nom de Jésus. Jésus n'est pas un objet. Dieu n'est pas un objet pour nous servir. Nous sommes pour servir Dieu. Nous sommes pour marcher avec Dieu. Mais nous sommes là pour aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est important. Si on aime Dieu, on aime ses enfants. Et c'est notre prochain. Paul met en avant aussi la qualité de cette connaissance de Jésus et il l'oppose aux œuvres qu'il réalisait lui-même autrefois. C'est pour ça qu'il a rejeté tout ce qui avait de la valeur avant. Dans Philippiens, il dira ceci au chapitre 3, versets 8 à 9. En fait, je considère comme tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Rien sur la loi. La loi n'amène rien. La loi est un indicateur de comment marcher avec Dieu. Mais ce n'est, elle n'apporte rien en soi directement. Elle ne permet pas une justification. Elle ne permet pas de dire, tu vois, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, c'est la foi en Christ qui permet. Alors, effectivement, comme je disais, on aime ses enfants et on verra que, effectivement, là, dans le Nouveau Testament, il nous est laissé un certain nombre d'informations concernant les uns et les autres. L'expression elle-même est dérivée d'un mot grec qui veut dire l'un l'autre, mutuellement, réciproquement. Et ça apparaît environ une centaine de fois dans le Nouveau Testament. J'ai juste relevé quelques éléments pour les partager avec vous. Voici les conseils qui sont donnés. Aimez-vous les uns les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Honorez-vous les uns les autres. Soyez prévenants. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Soyez modestes et humbles. Recherchez ce qui contribue à l'édification mutuelle. Accueillez-vous les uns les autres. Soyez capables de vous exhorter les uns les autres. Marchez d'un même pas. Saluez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres, servez-vous les uns des autres, portez les fardeaux les uns des autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, soyez patients les uns envers les autres. Au passage, merci pour votre patience. Dites la vérité dans l'amour, soyez bons et compatissants les uns envers les autres, soumettez-vous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres, considérez les autres comme au-dessus de vous-même. Veillez aux intérêts les uns des autres, enseignez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, montrez de l'hospitalité les uns envers les autres, utilisez les dons que Dieu vous a donnés pour le bénéfice des uns et des autres, priez les uns pour les autres, confessez vos fautes les uns aux autres. Et il y en a certainement d'autres, je vous invite à prendre du temps et chercher, faire une recherche sur les uns les autres dans votre Bible. C'est fascinant. On a toute une direction sur comment vivre. Et nous faisons tout cela, pourquoi? Parce que nous sommes réellement membres les uns des autres. C'est ce que dira Paul ici aux Romains. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres. Dans Éphésiens, il dira ceci, c'est pourquoi ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. nous sommes un corps. Et tout ce qui pourrait détruire la relation dans ce corps, eh bien, c'est injuste aux yeux de Dieu. C'est quelque chose qui ne doit pas être. Et tout ce qui construit et édifie nos relations dans ce corps, c'est juste. Et c'est bon. En fait, quand on y regarde de près, toutes les attitudes de notre vieille nature ont tendance à développer des relations incomplètes, voire malsaines, voire destructrices, et donc injustes. Ces mêmes attitudes nous éloignent de Dieu car elles n'ont qu'un seul but, satisfaire ou plaindre notre ego. Bizarrement, je veux dire, les deux sont un problème. Quand j'ai cité le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi, on voit bien qu'il traduit la grande qualité de relation qui doit exister avec notre prochain, mais aussi avec Dieu. C'est aussi des atouts, vu que c'est le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui vient de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu est. C'est son fruit. Et quand l'accent est mis sur la qualité de nos relations, nous comprenons aussi que la vérité ne doit pas être cachée. Mais on doit respecter certaines attitudes qui sont reconnues par Dieu. La vérité doit être abordée avec amour et douceur. Il peut y avoir une progression dans l'exposé de la vérité, mais le but est de permettre à terme une saine relation entre deux parties. Une relation juste. Dans Éphésiens, il est dit ceci, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est lui que le corps tout entier bien coordonné tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » La relation, vous le voyez ici, c'est ce qui prime. Ne pas détruire la relation. Alors, il faut être deux, je veux dire, pour construire une relation. Si quelqu'un veut la détruire, c'est hors de notre portée. Mais, ce n'est pas à nous de la détruire. Au contraire. Alors, dans les priorités, dans les relations, je pense qu'il y a cette phrase de Jésus, cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice. Ne vous inquiétez pas de tout le reste, etc. La priorité, c'est de chercher le règne de Dieu, de chercher la justice de Dieu. Jésus a prié pour que, comme lui, nous soyons un avec Dieu. Dieu vient vers nous et fait ce qui est nécessaire pour que cela existe. Et nous, est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour que cela existe? Prenons-nous le temps pour cela ou nous laissons-nous accaparer par les choses de ce monde? Si nous aimons et connaissons vraiment Dieu comme notre Père, alors ce sera une bénédiction et pour nous et pour tous les autres autour de nous. Persévérons et voyons ce qui n'est pas encore arrivé comme étant certain. Le royaume de Dieu est en marche. Nous avons vu donc à travers ces lois que le système que Dieu veut voir respecté dans son royaume génère un équilibre dans les relations entre les hommes. Et nous sommes tous différents et nos situations sont toutes différentes. Chacun de nous a une fonction différente dans ce monde avec Dieu. Et comme dans un corps, tous les organes sont différents pour le bien du corps. Dieu nous veut différents et nous a créés différents pour le bien de tous. Je crois qu'il est important de garder en tête cette notion. Parce que quelquefois, on peut jalouser la place d'un autre, envier la place d'un autre, vouloir la place d'un autre. C'est oublier que Dieu a prévu une place pour nous. Et on doit être ce qu'on est. Ne vous tracassez pas, si Dieu vous veut ailleurs, il vous mettra ailleurs. Laissez-vous transporter par Dieu. L'Église primitive n'a pas détruit l'équilibre social de son époque, mais elle a changé la relation entre les personnes. Elle a montré la direction à suivre ensemble. Et qu'est-ce qui est important? C'est l'amour et la miséricorde, le pardon. Dieu veut que chacun de nous, individuellement, nous puissions avoir une vie pleine en relation avec lui, en dehors des contraintes que les autres nous imposent par leur existence, et parfois contre notre gré. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on est plusieurs à vivre ensemble, eh bien, il y a des moments où c'est pas facile. Et c'est imposé puisqu'on vit ensemble. Et parfois, eh bien, il y a des frottements qui font mal. Mais Dieu veut que nous apprenions effectivement à développer une relation et dépasser tout ça. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour accepter nos situations qui de temps en temps sont bien éprouvantes. Mais Dieu, lui, a le recul nécessaire pour savoir les bienfaits du chemin dans lequel il nous emmène. Comme Cédric l'a montré dimanche, son chemin d'études chaotiques l'a amené là où il désirait aller. Mais le bon chemin suivi, c'était le chemin de Dieu, pas celui qu'il pensait prendre. Et c'est à la fin qu'on voit l'amour de Dieu pour nous. N'attendons pas la fin pour le remercier. Montrons notre foi et notre reconnaissance. Dieu interpelle ceux qui ont tout aussi, afin qu'ils partagent avec ceux qui n'ont rien. C'est la concrétisation de l'amour du prochain. Jacques en parle aussi. Et il promet de bénir celui qui partage. Alors je voudrais terminer ceci. Rappelez effectivement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous sont redonnées par-dessus, toutes les choses de la vie quotidienne, toutes les choses pour lesquelles les gens passent leur vie à essayer d'avoir l'argent pour pouvoir se les payer, etc. Toutes les choses de la vie quotidienne, les choses de base, le Seigneur nous les pourvoit. Les commandements de Jésus résument parfaitement tout ce que nous avons pu entrevoir les mardis précédents. Jésus présentera les deux commandements et il y a un scribe qui lui répond « C'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu en homme intelligent, lui dit « Tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. » Et personne n'osait l'interroger. La haine n'a aucune place dans le royaume de Dieu, même pour nos ennemis. Seul l'amour compte et reste éternellement. Nous devons être justes et manifester l'amour de Dieu pour tous les hommes sans en rejeter quelques-uns sur des critères personnels. Christ est et restera pour toujours notre exemple et notre but. Lui ressembler, c'est ce à quoi on aspire. C'est un chemin, c'est un processus. Et il est en train de se développer dans chacun de nous. Mais notre désir est de lui ressembler aussi. Ça nous motive. Et si nous refusons de nous mettre au service des autres, nous ne répondons pas au juste appel de Dieu. Nous faisons partie d'un corps. Nous sommes tous utiles dans ce corps. Quelle que soit la fonction qu'on a, même la plus petite fonction est indispensable dans un corps. J'ai des ongles, je ne sais pas trop à quoi ça sert, et ils n'arrêtent pas de pousser. Mais si je ne les avais pas, je pense que ça me manquerait. Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu n'est pas seulement ce que nous faisons et montrons aux autres, mais c'est ce que Dieu voit en nous. Alors, je voudrais terminer sur ces deux phrases. Développons donc une relation profonde, durable et authentique avec lui et entre nous. Cela sera juste aux yeux de Dieu, qui lui-même est juste.
Amen.
Amen.